Bonsoir ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde où vous nous écoutez. Ici à Paris, il est pile 19h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Des reportages, des analyses et des commentaires, c'est RFI Soir à suivre juste après ce journal. Dans l'actualité du monde, la libération de 3 otages israéliens contre des centaines de détenus palestiniens. Volodymyr Zelensky qui appelle les Européens au sursaut face à Donald Trump et la Russie. Et le cri d'alarme du chef de l'ONU en RDC, il faut éviter à tout prix une escalade régionale.
RFI.
Le président ukrainien affirme avoir refusé de signer un accord avec les États-Unis portant sur des minerais de son pays. Volodymyr Zelensky estime qu'il ne protège pas cet accord à ce stade. L'Ukraine annonce faite en marge de la conférence sur la sécurité de Munich, ajoutant qu'un tel accord devrait comporter des garanties de sécurité. Mais je ne vois pas encore cette connexion dans le document, a-t-il dit. Et puis le chef de l'État ukrainien a appelé ses alliés européens au sursaut face à la Russie, les exhortant à créer une armée commune pour éviter un accord forgé par les Américains dans le dos de l'Ukraine. On l'écoute.
Yesterday here in Munich, the US vice president made it clear.
Hier, ici à Munich, le vice-président américain a été très clair. Nous arrivons au terme de plusieurs décennies de bonnes relations entre les États-Unis et l'Europe. Désormais, les choses seront différentes et l'Europe doit s'y adapter. Mesdames et messieurs, je crois en l'Europe et je suis sûr que vous y croyez aussi. Je vous invite à agir dans votre propre intérêt et dans celui de l'Europe, des peuples d'Europe, de vos nations, de vos foyers, de vos enfants et de notre avenir commun. Pour cela, l'Europe doit devenir autosuffisante, unis par des liens communs. Soyons honnêtes, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que l'Amérique dise non à l'Europe sur des questions qui la menacent. De nombreux dirigeants ont parlé d'une Europe qui a besoin de sa propre armée. Une armée européenne. Je crois vraiment que le moment est venu, les forces armées européennes doivent être créées.
I really believe that time has come, the armed forces of Europe must be created.
Volodymyr Zelensky. Mené une nouvelle fois par des étudiants, des milliers de personnes venues de tout le pays manifestent en Serbie à l'occasion de la fête nationale, une manifestation d'envergure dans la ville de Kragujevac pour demander des comptes et des réformes au gouvernement, Laurent Ruy.
Oui, effectivement, des dizaines de milliers de Serbes ont fait le déplacement pour ce nouvel opus du mouvement anticorruption qui secoue la Serbie depuis maintenant un peu plus de 3 mois. Alors c'est à Kragujevac, la 4e ville du pays, que les protestataires ont pris possession de l'entièreté du centre-ville, dans une atmosphère détendue mais décidée. Ils veulent que justice soit faite pour les 15 morts de l'effondrement de la gare de Novi Sad. À lire les banderoles, à entendre les slogans, les manifestants sont très remontés contre le président Aleksandar Vučić qui dirige la Serbie depuis 13 ans et qui pendant toutes ces années a pris de plus en plus de liberté avec les valeurs démocratiques. La Serbie est devenue le 2e pays le plus corrompu d'Europe d'après Transparency International. Alors cette manifestation organisée par les étudiants, dont beaucoup sont venus à pied à Kragujevac depuis toute la Serbie, est soutenue par les agriculteurs, les enseignants, les avocats et une large base populaire. Les étudiants parviennent peu à peu à avoir accès aux médias d'État, ce qui renforce leur assise, mais pour l'instant, Aleksandar Vučić, qui organisait aujourd'hui un contre-meeting dans une ville du Nord, n'a pas encore accédé à leurs revendications.
Laurent Ruy en Serbie pour Radio France Internationale. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Strasbourg, jour du 26e anniversaire de l'arrestation d'Abdullah Öcalan. Ils ont réclamé la libération du fondateur du Parti des Travailleurs du Kurdistan, le PKK. Il est en détention depuis 1999. Le PKK qui est considéré comme une organisation terroriste par Ankara et par l'Union européenne. Le groupe État islamique revendique l'attentat suicide aux portes d'un bâtiment officiel à Kaboul en Afghanistan, c'était avant-hier. Le kamikaze avait tenté d'entrer dans le ministère du Développement Urbain, mais avait été abattu par un garde. Il a alors déclenché une explosion qui a tué une personne. La veille de cette attaque, le groupe État islamique avait revendiqué un autre attentat suicide. Il avait fait celui-là 8 morts devant une banque du nord du pays où des fonctionnaires venaient collecter leur salaire. Le 6e échange depuis le début de la trêve. Après 16 mois de captivité, 3 otages israéliens libérés dans la bande de Gaza contre 369 prisonniers détenus par Israël. Ce matin à Tel Aviv, les proches de ces otages étaient de nouveau au rendez-vous pour célébrer ces libérations. Il y avait de l'émotion et de l'angoisse aussi sur la fameuse place des otages. Dans la foule, l'envoyé spécial de RFI, Abla Jounaïdi, a rencontré Marcia.
This week was a depression, anguish, desperate week.
Cette semaine a été très déprimante, angoissante, désespérante. Nous avions tous très très peur. On pensait que nos otages étaient au minimum alimentés, mais quand on a vu la semaine dernière qu'ils étaient quasi mourants, on a compris qu'il n'y avait plus de temps à perdre.
We understood that there is no time. So a panic became the right.
Tout le monde a paniqué. Moi, j'avais la migraine et je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer pour nous si les autres ne sont pas sauvés ce samedi? Nous n'avons plus le temps.
I was like, oh my God, what will happen with us if this won't solve this Saturday? We don't have time anymore.
Une Israélienne à Tel Aviv ce matin. Au moins 25 personnes arrêtées par les forces de sécurité libanaises après l'attaque hier soir contre un convoi de la FINUL. Cela s'est passé sur une route menant à l'aéroport de Beyrouth. Le commandant adjoint de la force des Nations Unies déployée au Liban et un autre casque bleu ont été blessés. Les précisions de Paul Ralifé.
La vague d'arrestation est intervenue après une réunion d'urgence des chefs des services de sécurité en présence du Premier ministre Nawaf Salam et du ministre de l'Intérieur. La rapidité avec laquelle les services de sécurité ont réagi montre la détermination des autorités politiques à empêcher tout débordement après une forte montée des tensions dans le pays. L'attaque du convoi de la FINUL a eu lieu dans le sillage de Sitin, organisé par des partisans présumés du Hezbollah, qui protestaient contre l'interdiction notifiée à des avions iraniens civils d'atterrir au Liban. Des groupes de jeunes en colère ont bloqué plusieurs routes dans la capitale, y compris celles menant à l'aéroport de Beyrouth. Un convoi de la FINUL qui empruntait cette artère a été attaqué et des véhicules incendiés. L'agression contre les casques bleus a suscité une vague presque unanime de condamnation dans le pays, à l'exception du Hezbollah qui a gardé le silence. Sans évoquer l'incident, un député du parti chiite a dénoncé l'interdiction notifiée aux avions iraniens d'atterrir à Beyrouth et la décision d'Israël de maintenir des positions à l'intérieur du territoire libanais après la fin de son retrait le 18 février. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
J'ajoute que la France et d'autres pays condamnent cette attaque contre les casques bleus. La France exige l'arrêt immédiat de l'offensive du M23 sur Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo, demande le retrait sans délai des forces rwandaises soutenant ce groupe armé. Et de son côté, ce que dit le secrétaire général de l'ONU, il faut éviter à tout prix une escalade régionale dans ce conflit. Antonio Guterres s'exprimait à l'ouverture du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. En France, sous pression dans le dossier des violences au sein de l'établissement de Bétarame, François Bayrou s'est défendu devant les victimes qu'il a reçues longuement à Pau, dont il est le maire. Durant 3h30, il a échangé avec 9 des 112 victimes qui ont porté plainte pour agression ou violence sexuelle subie lorsqu'elles étaient scolarisées dans cet établissement catholique, où d'ailleurs étaient scolarisés plusieurs des enfants de François Bayrou. Le Premier ministre a répété, comme devant l'Assemblée nationale mardi et mercredi, après la publication d'une enquête de Mediapart, qu'il n'était pas au courant des accusations. « J'ai fait tout ce que je devais faire », a-t-il matraqué à la sortie de la rencontre qui s'est terminée par les mots forts et émouvants de Alain Esquer, le porte-parole de l'association des victimes.
Monsieur le Premier ministre, entendez comment ça fait mal à chacun de nous de nous retrouver ici pour dénoncer l'omerta, le non-dit, l'hypocrisie d'un système qui nous a broyés. Entendez dans ces lieux la souffrance de tous ces enfants, ceux de Bétarame, mais aussi des 5 millions de Français qui ont connu les ténèbres et qui vous obligent à agir. Entendez ces cris indélébiles qui resteront à jamais gravés au fond de nos tripes. La violence envers les enfants n'a pas de visage, mais elle doit être combattue partout dans tous les foyers de France. C'est notre responsabilité collective de se nourrir de ce scandale de Bétarame et de s'en servir comme d'une opportunité formidable pour changer notre façon d'agir auprès de toutes les victimes de violences.
Message lancé à François Bayrou. Dimanche politique, demain à cette même heure sur RFI, reviendra là-dessus. Le pape restera hospitalisé le temps nécessaire, dit le Vatican. François avait été admis hier dans un hôpital de Rome pour une bronchite. Il ne pourra pas présider demain la prière de l'Angélus. Ainsi va le monde, vous écoutez Radio France Internationale. Il est maintenant 18h passé de 10 minutes en temps universel, les sports. Et Christophe Diremzian, Yannick Sinner, privé de tennis jusqu'au début du mois de mai, l'actuel numéro mondial est sanctionné pour dopage dans une affaire qui remonte à plusieurs mois.
Oui, l'Italien qui avait été testé positif il y a un peu moins d'un an lors du tournoi d'Indian Wells, s'il avait été disculpé dans un premier temps, mais l'Agence mondiale antidopage ne l'entendait pas de cette oreille, a porté l'affaire devant le tribunal arbitral du sport qui devait statuer en avril. Finalement, Sinner et Lama ont trouvé un terrain d'entente et le joueur ne s'en sort pas si mal, Olivier Pron.
3 mois, effectivement, au lieu d'un à 2 ans initialement demandé. La sanction aurait pu être bien plus lourde et mettre la suite de sa carrière en grave danger. Testé positif à un anabolisant en mars 2024, Yannick Sinner s'en était sorti jusqu'alors, plaidant la contamination accidentelle. En l'occurrence, une pommade sur la main d'un de ses kinésithérapeutes qui aurait pénétré dans l'organisme de l'Italien via un massage. Lama concède cette inoculation accidentelle, ce dopage à l'insu de son plein gré. En somme, elle confirme que cela n'a en aucune manière amélioré les performances du numéro 1 mondial, mais la L'Agence mondiale estime aussi qu'un sportif est responsable de la négligence de son entourage et donc elle inflige une suspension façon côte mal taillée qui calmera peut-être la colère de certains joueurs qui estimaient que Sinner avait jusqu'ici bénéficié d'un traitement de faveur. Le voilà donc au repos forcé jusqu'au 4 mai, lui qui écrase le circuit mondial depuis quelques mois, vainqueur des 2 derniers tournois du Grand Chelem aux États-Unis et en Australie, 6 défaites seulement depuis janvier 2024 pour 81 victoires. L'Italien de 23 ans manquera les 4 prochains Masters 1000, catégorie juste en dessous des tournois du Grand Chelem, mais sera de retour pour Roland-Garros fin mai.
Du football avec la suite de la 22e journée de Ligue 1 et la démonstration de Marseille face à Saint-Etienne.
Il y a quelques minutes, carton de l'OM, 5 buts à 1, doublé d'Amin Gouiri. L'OM revient provisoirement à 7 longueurs du PSG. En déplacement tout à l'heure à Toulouse, des Parisiens sur le point de franchir allègrement le barrage de Ligue des Champions avec un Ousmane Dembélé irrésistible en ce moment, n'est pas loin de l'état de grâce. L'entraîneur Luis Enrique espère en tout cas que la dynamique ne ralentira pas face à des Toulousains pas forcément simples à jouer.
C'est clair que nous avons un très bon moment, mais en même temps, chaque match et chaque compétition sont importants. On essaye de prendre du plaisir en jouant au football. L'année dernière contre Toulouse, on n'a gagné aucun des matchs que du championnat. Et ça signifie que ce sera, comme d'habitude, très difficile et j'espère de voir, comme toujours, notre équipe à un haut niveau.
Toulouse-PSG, coup d'envoi 20h05 TU. La 25e journée de Première Ligue, Arsenal met la pression sur le leader Liverpool en allant gagner à Leicester 2-0 et en revenant à 4 points des Reds qui joueront demain. Manchester City cartonne à domicile face à Newcastle 4-0 avec notamment un triplé d'Omar Marmouche, l'Égyptien. Et puis la 24e journée de Liga, le Real Madrid a été accroché à Osasuna 1-1. Kylian Mbappé a marqué pour les Meringues.
Christophe Diremzian pour les sports.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Un média qui refuse de passer à la caisse, ce n'est pas la première fois que cela arrive dans le monde du football justement, et cela concerne DAZN, principal diffuseur de matchs de la Ligue 1. Amaury de Rochegonde, la plateforme britannique refuse de payer une partie de l'échéance due pour le championnat de foot français.
Oui, la LFP, la Ligue de football professionnel, a d'ailleurs porté plainte en référé. Le tribunal de commerce de Paris a statué hier et devrait rendre sa décision dans les prochains jours. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'une affaire de gros sous, mais pour parfois de petits clubs, car l'argent des droits du foot, cela soutient les grands clubs, mais c'est essentiel pour les clubs plus modestes, qui n'ont pratiquement pas d'autres ressources, et pour le sport amateur, via une taxe de 5%. Alors effectivement, DAZN refuse de verser à la Ligue la moitié de la 4e échéance des droits, soit 35 millions d'euros. La plateforme britannique invoque 2 motifs, le piratage élevé et la mauvaise volonté des grands clubs de fournir des images sur les à côté des matchs, comme des interviews de joueurs qu'ils préfèrent se préserver.
Et le piratage qui est un problème ardu dans le football, hein.
C'est une pratique qui s'est incontestablement popularisée. En octobre dernier, la LFP avait indiqué que 55% des téléspectateurs du match vedette OM-PSG avaient regardé le match illégalement. Et pourtant, l'ARCOM, chargé de la lutte contre le piratage, avait bloqué 340 noms de domaines sur Internet avant le coup d'envoi. Mais c'est un peu comme écoper dans un bateau qui prend l'eau avec une passoire, car le propre des matchs, c'est qu'ils se regardent en direct. Il faut bloquer le site pirate pendant la retransmission, ni avant ni après. Près de 7000 sites ont été bloqués depuis 2021, où on a permis un blocage plus dynamique. Mais selon les professionnels, c'est une goutte d'eau. Il faudrait que les titulaires de droits puissent faire bloquer les diffusions pirates directement par les fournisseurs d'accès à Internet en temps réel, comme en Italie ou au Royaume-Uni.
Et puis, DAZN est également mise en cause pour ses prix, Amaury.
Oui, pour 2024-2029, où elle paye 400 millions d'euros par an, la plateforme a obtenu 8 matchs sur 9 cet été, en proposant des prix à 30, voire 40 euros par mois. Ce n'est pas loin de ce qui se fait ailleurs en Europe, mais c'est plus cher que ce qui se pratiquait jusque-là en France. Des signaux ont alors clignoté pour montrer une recrudescence du piratage, et le diffuseur a pris du retard dans sa conquête d'abonnés. Il lui en faudrait 1,5 million à la fin de l'année. Il n'en aurait que le tiers aujourd'hui. Or, une clause de sortie permet de mettre fin au contrat si le chiffre n'est pas atteint. Depuis, DAZN multiplie les promotions de milieu ou de fin de saison, mais la faillite de Mediapro est dans toutes les têtes et un grand absent, Canal+, et regarder avec un brin de nostalgie.
L'actualité des médias, c'est aussi le sommet international de l'intelligence artificielle qui se tenait à Paris au Grand Palais. Non loin de là, le Théâtre de la Concorde organisait un contre-événement organisé par le Syndicat National des Journalistes. Y ont été abordées, Oriane Gendreau, les questions éthiques et déontologiques que pose l'IA.
Dans le journal sportif L'Équipe, cela fait bien longtemps que l'IA n'est plus sur le banc. Cet été, elle générait seule des podcasts sur les Jeux Olympiques à partir des articles du quotidien. Un grave problème déontologique pour Francis Magoua, un des rédacteurs du journal.
Ça a été vendu comme ça ne coûte rien et il n'y a pas de travail supplémentaire au niveau de la direction. Donc notre réaction de se poser des questions sur qui est responsable et qu'est-ce qu'on fait s'il y a une erreur. L'IA, c'est une nouvelle forme de croyance qui permet peut-être d'avoir une rentabilité économique. Mais la conséquence, c'est qu'il n'y aura plus de journalistes.
Et les premiers journalistes touchés risquent d'être les secrétaires de rédaction, c'est-à-dire ceux qui relisent et corrigent les articles. Pourtant, bien loin de décharger les journalistes de ces tâches supposées rébarbatives et chronophages, les erreurs trop fréquentes de l'intelligence artificielle les poussent à être deux fois plus vigilants. C'est ce qu'explique Éric Barbier, journaliste à l'Est Républicain et co-organisateur du Contre-Sommet.
Les secrétaires de rédaction aujourd'hui sont directement ciblés.
Il y a sans arrêt un contrôle humain, une relecture humaine qui est indispensable parce que ces IA commettent tellement d'erreurs qu'il faut repasser derrière elles en permanence. Donc en fait, il n'y a aucun gain de temps. On ne peut pas demander à un journaliste, comme on l'entend aujourd'hui beaucoup, d'ailleurs beaucoup dans la bouche même du président de la République, il faut que les journalistes fassent leur métier, vérifient l'information et tout ça, et leur demander de l'IA générative qui n'est pas fiable. C'est complètement paradoxal comme raisonnement. Donc revenons à l'essentiel, revenons aux fondamentaux du journalisme, c'est-à-dire donnons-nous le temps de faire notre métier, un métier qui respecte des règles éthiques, déontologiques, d'information, de collecte d'informations sourcées, vérifiées.
Et pourtant, l'utilisation de l'IA se répand dans toutes les sphères journalistiques. Le journal Le Monde et l'agence France Presse ont déjà passé des contrats avec deux logiciels d'intelligence artificielle générative. Face à cette arrivée massive de l'IA dans les rédactions, Éric Barbier propose des garde-fous.
Ben, c'est qu'on se mette autour d'une table déjà pour en discuter, comme le préconise le CDJ, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui fixe une échelle de risque à l'utilisation de ces IA avec un risque faible, un risque modéré, un risque à proscrire, qu'on se mette autour d'une table justement pour, en appliquant cette échelle de risque, pour définir quelles IA on peut potentiellement utiliser, c'est-à-dire celles qui n'ont aucun risque sur nos métiers.
Des chartes pour réguler l'IA commencent à se mettre en place dans les médias, signe que les rédactions prennent de plus en plus conscience des risques que pose un tel outil.
Oriane Gendreau dans RFI Soir.
Djouba, 91.4 FM.
Intéressons-nous à ce qui se passe au Soudan du Sud où sévit une épidémie de choléra. À Djouba, justement, le quartier Jebel Timam est touché malgré une campagne de vaccination. Il faut dire qu'il y a l'absence de système d'assainissement, l'accès quasi inexistant à l'eau potable, la présence d'une immense déchetterie. Rejoignons Florence Mieto sur place.
Accroché à une colline rocailleuse, le quartier de Jebel Timam est peuplé de maisons en bambou et en torchis. Des habitations à étages se dressent aussi ça et là, inachevées, dans ce quartier qui reste l'un des plus sous-développés de la capitale sud-soudanaise. Un quartier toujours en proie à l'épidémie de choléra. En janvier, Albino Diari Warnyang, le pasteur de la communauté, a brutalement perdu son frère de 75 ans à cause de la maladie.
C'est arrivé le 13 janvier. Il a commencé à être malade à 4 heures du matin et il est mort le même jour à 15 heures. Nous l'avons emmené dans une clinique à 6 heures du matin. Ils lui ont donné 7 perfusions d'affilée. Puis le docteur nous a dit de le ramener à la maison pour qu'il se repose. Mais une fois qu'on est arrivé chez nous, il est mort.
Une campagne de vaccination s'est déroulée fin janvier dans la communauté et la famille proche d'Albino Diary Warniang a été vaccinée. Mais le pasteur reste inquiet.
Nous restons vigilants car le choléra est toujours parmi nous et il y a encore des gens qui n'ont pas été vaccinés.
Si personne ne sait exactement comment le choléra est arrivé jusqu'ici, les premières victimes ont été rapportées parmi les nombreux récupérateurs de déchets qui survivent en fouillant dans l'immense décharge située en plein cœur de Djebel Timane. 3 d'entre eux sont morts au mois de décembre. Mathieu Boya, le chef traditionnel du quartier, souhaite la fermeture de ce site.
Les quartiers de Djouba qui n'ont pas de déchetterie n'ont pas eu autant de cas de choléra. Mais nous, ici, nous avons eu beaucoup de cas et des gens sont morts. Hier encore, un homme a dû être emmené au centre de traitement du choléra de Gouréi.
Il est d'autant plus difficile de contenir l'épidémie qu'il n'y a aucun système d'assainissement à Djebel Timane et un seul puits d'eau potable payant pour plus de 6000 personnes. L'immense majorité des habitants boit l'eau de puits creusée dans la terre, comme celui que nous montre Justin Passy Major, un voisin. Une sorte de flaque d'eau profonde entourée de pierres et d'herbes au bord de laquelle traînent des bouteilles en plastique.
L'eau elle-même est propre, mais si par exemple des chèvres viennent boire ici, elles peuvent contaminer l'eau avec des bactéries. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de barrière autour du puits. Mais si on pouvait en construire une, creuser plus profond et utiliser du chlore, alors on serait protégé.
Les appels de la communauté pour la construction de nouveaux puits, de latrines, ainsi que pour la fermeture de la déchetterie sont pour l'instant restés sans réponse. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Feuilletons à présent une bande dessinée qui a pour titre « Mon ami Kim Jong-un », publiée par une sud-coréenne. La dessinatrice Kim Suk-jandri Kim raconte cet homme nord-coréen donc, qui est un des plus jeunes dirigeants de la planète, aussi mystérieux que fascinant, héritier d'une lourde dynastie. Elle en dit plus à Nicolas Roca.
Bonjour, Kim Suk-jandri Kim.
Bonjour.
Alors pourquoi ce titre qui est une forme de provocation avec une sorte de parallèle entre votre vie et celle du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un?
Oui, en fait, je n'ai pas choisi ce titre pour provoquer. Mon ami, ça veut dire que c'est loin en même temps proche, comme la Corée du Nord. On est très proche, mais on est aussi loin, comme une un peu famille, mais encore comme des amis, mais pas l'ennemi en même temps ami. Voilà.
Vous essayez de comprendre Kim Jong-un, de comprendre sa famille. Vous avez parlé à énormément de personnes, des spécialistes. Vous êtes penché sur les archives du gouvernement sud-coréen. Et on a l'impression que vous avez ramassé toutes les informations qu'on peut ramasser sur Kim Jong-un et sa famille. Et en même temps, on a l'impression que malgré tout, on n'arrive pas à tout comprendre au final et que ça reste un peu insaisissable.
Oui. Quand il a succédé son père, Kim Jong-il, en 2011, il y a pas mal de livres, pas mal d'informations qui sont sorties. Mais je ne voulais pas faire la biographie de Kim Jong-un. D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment des sources exactes sur tout ce qu'il a fait ou sur les dates, etc. On est sûr de rien, finalement. Je voulais surtout faire la recherche un peu autour de lui aussi, parler de Corée du Nord et tout ça.
À travers votre ouvrage, on voit différentes facettes de Kim Jong-un, l'enfant qu'il a été avant de devenir dirigeant, l'homme qui tente de réformer son pays ou bien celui qui fait assassiner son demi-frère et son oncle. Est-ce que vous avez essayé de montrer la complexité de Kim Jong-un?
J'ai essayé de comprendre sa vie. C'est le seul dirigeant de Corée du Nord qui est parti en Europe, en Suisse, pour faire des études. Et puis, il y a sa mère aussi qui a été hospitalisée, soignée en France. Donc, il a une certaine complexité. Il a eu l'accès à la culture occidentale et tout ça. Donc, j'avais envie de comprendre. Et en même temps, à l'époque où il était en Europe, moi aussi, j'étais en Europe. Peut-être on s'est croisés. C'est tout ça. C'est marrant de creuser aussi ce domaine-là.
Au fil de vos recherches, vous faites des rencontres assez exceptionnelles, notamment celle de Moon Jae-in, l'ancien président sud-coréen, grand artisan du rapprochement avec le Nord. Il s'est entretenu à 3 reprises avec Kim Jong-un lors de sommets inter-coréens. Quel effet est-ce que cela vous a fait de rencontrer un tel personnage?
Je savais qu'il refusait toutes les interviews des journalistes depuis qu'il est parti de sa position en tant que président. Même s'il refusait, moi je voulais quand même le contacter. Il fallait absolument le contacter. S'il a accepte de me recevoir, ce serait vraiment génial parce qu'il a fait presque des miracles. Lorsque j'ai pu le voir, j'étais vraiment très très ravie, même s'il ne parle pas de cette rencontre. Le fait qu'il m'ait reçu dans son résidence, pour moi, c'était vraiment génial. Et puis finalement, il a parlé de cette rencontre.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit de Kim Jong-un sans révéler trop ce qu'il y a dans le livre?
Dans le livre, il a tout, comment dire, respecté son langage, des mots qu'il a choisis, son expression et tout ça. Donc, je n'ai pas à dire plus de choses.
Il faut lire la BD. Alors, vous mettez beaucoup, vous avez dit, de votre vie personnellement avec des parallèles, mais vous racontez aussi votre enfance en Corée du Sud, une Corée du Sud qui est très anticommuniste. C'est un discours qui est beaucoup revenu en Corée du Sud récemment. Quel effet est-ce que ça vous fait, vous, de revoir un petit peu ces thèses très anticommunistes et qui opposent les deux Corées, être encore présente et de plus en plus dans le débat public en Corée du Sud?
Je trouve ça que c'est très triste et dommage que ça continue encore parce que depuis le premier gouvernement en Corée du Sud, on a toujours utilisé cet esprit contre le communisme, contre la Corée du Nord. C'est aujourd'hui également politiquement à chaque fois les extrémistes qui servent cette idée contre la Corée du Nord pour servir et pour garder le pouvoir. Je trouve ça très dommage et triste. Oui.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions de RFI.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Et comme Sugjandri Kim, auteur de Mon ami Kim Jong-un, une bande dessinée qui paraît chez Futuropolis.
RFI Soir, Philippe Le Caplain. Paris. 89 FM.
Paris, où au théâtre des Mathurins se produit Sandrine Saroche. L'humoriste fait sale comble pour son deuxième seul en scène, quand elle n'intervient pas sur les ondes de Radio France. Tranquillement, mais assurément, cet ancien avocat trace son sillon sur la scène comique, avec un spectacle riche d'une écriture au mot près, un rythme à la seconde près, avec pour seul décor un cadre de lumière, tout cela au service d'un esprit libre et de l'humour. Bien évidemment, elle ose tout, demande régulièrement à la salle, après coup, si ça passe, comme pour se donner le droit de s'affranchir du politiquement correct.
Sylvie Joly m'a beaucoup fait rire pendant toute mon adolescence. Et puis ensuite, c'est Albert Dupontel. Voilà, ce sont, je crois, les deux personnes qui m'ont fait le plus rire. Albert Dupontel, je me souviens d'être sortie de son spectacle avec mal aux joues tellement j'avais ri. L'effet de surprise, c'est très drôle. Ouais, quand quelqu'un dit une chose qu'on n'attendait pas, moi je déteste l'humour quand c'est cousu de fil blanc, quand je sais ce qu'on va dire. Les gens, par exemple, qui racontent toujours les mêmes blagues et choses comme ça me fait pas rire. Beaucoup de choses me font rire. En particulier, tout ce qui a vocation à me faire pleurer. En fait, c'est ça. On ne pourrait pas supporter cette vie s'il n'y avait pas le rire. En tout cas, moi, je suis une adepte de la phrase de Chamfort, la journée la plus perdue est celle où l'on a pari.
Et Sandrine Saroche, qui a 55 ans, plaisante allègrement de l'âge qui passe. Et les nombreuses têtes blanches qui assistent au spectacle ne s'en plaignent pas.
Il faut savoir que moi, je suis une fille de coiffeuse et que ma mère avait un salon de quartier. Et donc, il y avait quand même beaucoup de mamies. Et donc, ça a été mon premier public. Et donc, c'est vraiment un public que je connais bien. Et je me suis toujours dit que si d'entrée de jeu, on se disait qu'on est vieux dès le départ, ben on était moins triste de vieillir. Voilà, c'est peut-être bête, mais c'est... Et puis, de toute façon, on vieillit et c'est finalement une chance de vieillir par rapport à, je sais pas, à James Dean ou Marilyn. Donc voilà, c'est, et puis quant aux têtes blanches dans les salles de spectacle, c'est un secret pour personne que souvent, enfin, le théâtre, c'est quand même pas forcément les jeunes de 20 ans qui vont au théâtre. Le public à notre âge et un peu plus.
Sandrine Saroche, elle se produit jusqu'au 30 mars au théâtre des Mathurins à Paris. À suivre sur Radio France Internationale, l'actualité en Afrique avec un nouveau point sur la situation en RDC.
Tout à l'heure sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le Bitcoin autour de 100 000 dollars. Les cours des crypto-monnaies battent des records. Un phénomène économique et politique qui, malgré les risques liés à leur volatilité, attire les investisseurs du monde entier. Les cryptos sont-elles l'avenir de la finance? On en parle avec leurs supporters et des spécialistes.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
Le Club RFI, Éric Amiens.
Cette semaine, le club RFI de l'université d'Oustim d'Abomey au Bénin fait son émission. Le club raconte l'histoire du plateau d'Abomey et ses royaumes, notamment celui d'Alada, où se trouve la filiation de Toussaint Louverture, héros de l'indépendance d'Haïti, fils du prince d'Alada appelé Gaou.
Le club RFI, Éric Amiens.
Dimanche, à partir de 19h40.
RFI.